C'est un ballet au départ qui date de 1928, qui a été commandé par une ancienne, enfin, comment dirais-je, une actrice, mais qui est égérie au sein des ballets russes, qui s'appelle Ida Rubinstein, et qui commande cette pièce, en fait, Boléro, à Maurice Ravel et à Bronislava Nijinska, qui est la sœur de Nijinsky. Et en fait, c'est Bronislava qui décide, avec le décorateur Alexandre Benoît, que ça se passera dans une taverne en Espagne, sous une très très grosse lampe. C'est pour ça qu'on a décidé de garder cette option d'un plein feu comme ça, très 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 lumineux, très clair, qui bouge pas en fait, qui se modifie pas.
Et comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Nijinska, qui est malheureusement dans l'ombre de son frère?
C'est vrai qu'elle est... Écoutez, elle est dans l'ombre de son frère. Il faut savoir en même temps qu'est-ce qu'on veut dire par là, parce qu'elle a quand même écrit presque entre 70 et 80 pièces. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même réussi à faire une très, très belle carrière internationale qui lui a quand même vraiment apporté beaucoup de choses, je pense. Et elle a fait quelques chefs-d'œuvre, vraiment quelques chefs-d'œuvre qui sont... très intéressante parce qu'aussi elle les a repris elle-même en fait. Par exemple, elle a créé en même temps, quasi en même temps que Boléro, enfin quelques 5 ans avant, Les Noces sur la musique de Stravinsky. Et en fait, dans les années 60, en 66, elle va reprendre sa chorégraphie sur l'invitation en fait du Royal Ballet de Londres. Et elle va véritablement réinventer ses noces. Comme je me suis beaucoup intéressée à Václav Nijinsky, pour moi c'était très intéressant d'aller suivre la sœur dont il reste énormément de traces et qui sont pas du tout les mêmes traces que celles auxquelles j'ai eu affaire quand j'ai travaillé sur le Sacre du Printemps. Et puis Boléro, évidemment, c'est un autre grand chef-d'œuvre qui est un chef-d'œuvre sur, comme Les Noces sont deux chefs-d'œuvre musicaux, mais Boléro c'est plus qu'un chef-d'œuvre. On sait même plus parfois que c'est Ravel qui a écrit Boléro. On connaît Boléro, tout le monde connaît Boléro, tout le monde le fredonne, mais finalement c'est une pièce qui a pris presque une autonomie musicale. Et avec l'idée aussi de revenir en fait à cette question de quelqu'un qui s'expose. Alors évidemment, c'était l'envie de travailler avec François Chéniaud. C'était lié au fait que voilà, qu'aujourd'hui les questions qui se posent à nous, c'est la question aussi beaucoup du genre, de la normalité, de comment, qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme, enfin bon, des questions qui dans nos sociétés excèdent celles des années 20, mais qui néanmoins me semblaient tout à fait être emblématisées par la présence de François sur cette table.
Pour ce Boléro, vous êtes intéressé aux archives, comme votre travail précédent sur Nijinsky. Comment peut-on réussir, à partir de fragments du passé, à reconstituer une chorégraphie? Comment peut-on recréer du mouvement?
Alors, c'est très drôle, parce qu'immédiatement, j'ai beaucoup d'images qui viennent. Là, le parti pris pour Boléro, c'est qu'on n'est pas dans une... Il n'y a pas de tentation d'être dans une espèce de reconstitution illusionniste. On voit bien le costume, la personne. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher plutôt, pour moi, une espèce de kaléidoscope historique. En fait, Bronislava est très inspirée, probablement, comme le sont tous les artistes de cette période-là, très, très inspirée, en fait, par un certain exotisme. Un certain exotisme qui peut être tout près. L'exotisme espagnol, il est à portée de main. Il y a juste à franchir les Pyrénées. Et en fait, comme le font beaucoup de créateurs à ce moment-là, elle veut s'inspirer de cette danse flamenco. Alors, je pense que c'est une femme qui a vu danser l'Argentina à ce moment-là. Et l'Argentina elle-même, c'est une danseuse espagnole extraordinaire, qui d'ailleurs danse souvent avec un homme qui s'appelle Escudero. Et elle a vu danser l'Argentina, et je pense que c'est une espèce de, à la fois, soit un hommage, soit en tous les cas une relecture aussi de ce que serait le flamenco. Et l'Argentina va être une figure qui va aussi inspirer la danse buto, en fait, dans les années 60. Casio ne s'arrête de danser, et un jour il rentre dans un musée, il est donc l'un des fondateurs de la danse buto, il rentre dans un musée, et il voit un tableau qui lui fait penser à un spectacle de l'Argentina qu'il avait vu auparavant. Et en fait, ça lui redonne envie de danser. Et son premier, cette recréation, ça va s'appeler « Hommage à l'Argentina ». Et il va convoquer, pour écrire cette œuvre, un autre personnage très fameux de la danse buto, qui est Hiji Kata. Or, Hiji Kata, quelqu'un qui m'a toujours interpellée, il dit, que quand il danse, c'est toujours un hommage aux morts. Et il dit que quand il danse, c'est sa sœur qui se lève en lui. Et donc, en fait, il y a toute une dimension spectrale qui va être explorée dans Boléro, autour à la fois de la figure de Bronisława Nijinska, à partir de photographies et de petites notes qu'on a retrouvées à la Bibliothèque du Congrès, donc qui viennent nourrir aussi un certain imaginaire, des photographies de l'Argentina, de Vicente Escudero, et par ailleurs des photographies, évidemment, de Hijikata et Kaji Ohno dans leurs propres travaux.
On pourrait considérer qu'ici, François Cheneau est un peu la réincarnation à la fois de Nijinska et en même temps de son frère. Ce serait...
Non, moi je vois plutôt comme plutôt... Pour moi, il est s'il réincarne, il est plutôt comme une espèce de bande passante. Enfin, il est traversé à la fois par Hijikata, Kaji Ohno. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il revient, il est complètement, on dirait Nijinsky, effectivement. Mais c'est aussi des postures dans lesquelles on voit beaucoup, en fait, les danseurs buto. Et par ailleurs, vraiment tout le début, c'est le spectre de l'Argentina. Donc, en fait, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'était de l'inviter à passer par des figures très très différentes qui peuvent lui donner à la fois énormément de force ou au contraire beaucoup d'abandon. Or, toute la partie buto est très construite sur le fait que le corps est ramené systématiquement au sol, que le corps cherche les parties intimes, il y a cette dimension de chair en fait qui arrive avec le buto, et surtout il y a une dimension de cruauté. Parce que le buto vraiment cherche à travailler, enfin en tous les cas, les propositions qui ont été faites par Hijikata, c'était son premier solo qui s'appelle Kijinsky, et qui consonne vraiment comme Nijinsky, même si c'est pas ça que ça veut dire du tout, mais il égorge un poulet entre ses jambes. Donc voilà, il y a plusieurs moments où il y a véritablement comme ça une espèce de cruauté qui s'effectue à la fois à soi-même, mais qui est aussi une adresse à la cruauté que le public pourrait ressentir. Et en fait, ça vient mettre en scène un imaginaire qui n'est pas... Enfin, ce que lui montre n'est pas cruel, mais ce que l'imaginaire peut inventer quand il est en train de regarder François Cheneau, ça peut être une certaine forme de cruauté. Et moi, ça m'intéressait beaucoup d'aller chercher vraiment l'endroit où notre imaginaire construit presque au-delà de ce qu'on voit des choses, et des choses qui parfois sont pas très glorieuses. Enfin, on n'a pas envie de se dire qu'on a été cruel, mais il y a des moments où on est cruel, clairement.
Quoi ce choix du quatre mains ? Est-ce que c'était plus pour le côté pratique ou c'était pour donner une autre atmosphère ?
Non, vous avez raison, c'est un mélange un peu. C'est-à-dire, avoir deux pianos, c'est un peu plus compliqué déjà, mais il existe une version de piano, ça c'est vrai. On fait des versions avec orchestre. On a même une version en fait pour Nijinska, voilà la femme qui comporte Noces et Boléro, dans laquelle on travaille avec l'ensemble Aedes, l'orchestre Les Siècles, et donc on a un Boléro qui est chanté en fait, vraiment chanté. Là, moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la dimension live de la musique. Oui. Vous avez vu que leurs mains s'entrelacent, enfin c'est très serré en termes de partition. Et ils font presque comme un seul corps qui est androgyne, en fait, puisqu'il y a un homme et une femme. En même temps, ils sont habillés en homme, alors que lui, qui est un homme, il est habillé en femme. Enfin, une espèce de circulation comme ça, des signes qui viennent un petit peu nous perturber, nous interroger. Boléro, c'est partout, tout le temps. Tout le monde le reprend, le transforme. C'est vraiment une espèce d'œuvre qui appartient au patrimoine. On le voit dans un espèce d'entrelacs historique aussi, enfin avec on comprend des racines de départ, des racines de projection. C'était vraiment mon envie, c'était véritablement de faire circuler cette pépite, hein, qui est une forme de pépite, hein, de l'histoire de l'art, de la mettre en relation aussi avec à la fois ce qu'elle a été et ce qu'elle est devenue aussi, comment elle a rayonné en fait dans l'imaginaire des artistes. Voilà.